Moi, j'ai transmis des mails au Cassin Oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous compagnie au Cassin Oriental. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Certaines banques de sang des hôpitaux publics en République démocratique du Congo connaissent des difficultés pour faire face aux besoins pressants des transfusions sanguines. En 2011, le gouvernement congolais avait lancé un projet de renforcement du système de gestion de différents centres de transfusion sanguine à travers le pays. Certains centres ont été réhabilités et ont vu leurs activités relancées. Dans certains coins du pays, de nouveaux centres de proximité ont été installés. À ce jour, 5 ans après, les mêmes difficultés sont observées et plusieurs familles sont désormais obligées de se faire accompagner d'un ou plusieurs donneurs de sang de manière à faire face, le cas échéant, à un besoin pressant de transfusion. Que faut-il faire pour améliorer le système d'alimentation régulière des banques de sang à travers le pays? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Julie Pézabongonda est au standard, André Mongou à la mise en onde et Pierre Lamégie à la réalisation de ce programme. Coordonnées présentées par Guillaume Nguembo sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Gilles Nguembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios deux invités. Il s'agit bel et bien du docteur Pacifique Mistingui, coordonnateur technique au CENTES, le Centre national de transfusion sanguine de la RDC, ainsi que Monsieur Jean-Marie Moyongwa, communicateur ou responsable de la charge de la communication dans ce centre. Alors vous tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Voilà. Bientôt d'ailleurs, on va ouvrir les standards pour vous, chers auditeurs, partout où vous êtes à travers le pays et à l'étranger. Vous désirez participer à cette émission, contribuer à cette réflexion autour de comment et que faire pour améliorer le système d'alimentation régulière des banques de sang à travers le pays. Peut-être que vous vous êtes retrouvé une fois dans une situation où vous avez un frère, un ami ou encore une connaissance qui se retrouvait en difficulté pour avoir le sang dans les différentes banques de sang à travers nos hôpitaux. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous présenter vos témoignages à travers le pays, la situation chez vous, à Lubumbashi, à Kisangani, à Boma et à travers le pays. Merci beaucoup. Nous donnons d'abord la parole à notre premier invité, Dr Pacifique Mistingui, coordonnateur technique au niveau du Centre national de transfusion sanguine. À ce jour, est-ce qu'on peut avoir une statistique au niveau, comme on l'appelle, au niveau des banques de sang? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on a suffisamment de sang à donner aux malades?
Merci beaucoup, Messieurs, à tout en saluant à tous nos auditeurs. Mais sinon, à ce jour, il faut dire que la couverture en termes des produits sanguins à l'échelle du pays n'est pas à 100% certes. Selon nos données de l'année passée, nous avons couvert le pays à hauteur de 82% seulement des besoins en produits sanguins. Mais il se fait qu'effectivement, il y a des petits problèmes qui se posent, notamment en rapport avec les approvisionnements en réactifs et tests de consommables pour la qualification conformément au nombre de tours de produits sanguins. Ça, c'est un vrai. Et ceci est dû, entre autres, au fait que depuis juin 2015, l'un de nos financements importants en matière de sécurité transfusionnelle a connu son arrêt. Il s'agit ici du financement du Fonds mondial qui couvrait à hauteur de 30% des besoins. Mais l'État a pris les relais. L'État a pris les relais en passant des commandes assez énormes pour rapidement couvrir les gaps et tous les problèmes liés au processus d'acquisition fait que cela pose des petits problèmes. Il faut se dire que déjà les commandes sont en cours et les premières livraisons, nous les attendons d'ici tout au plus un mois pour pouvoir prendre les relais en attendant la mobilisation d'autres partenaires pour nous aider à couvrir.
Alors, donc, on peut dire ce qui justifie exactement la rupture qu'on a connue dans les différentes banques de sang à Kinshasa, notamment, c'est lié à ces désengagements du Fonds mondial.
Le Fonds mondial couvrait 60% des besoins et dès que le financement a pris fin, l'État a pris les relais pour rapidement combler les gaps.
L'État a pris les relais à combler les puissances. Est-ce que c'est pratiquement la même situation que nous avons connue au niveau de l'assainissement de la ville avec notamment les immondices? Est-ce que c'est vraiment une couverture avec l'engagement du gouvernement, une couverture totale? 60% par exemple, parce que bon, le vous l'avez dit, le Fonds mondial traînait à 60%, c'est que les 40% c'était pris en charge par le gouvernement.
Le gouvernement ainsi que les autres partenaires qui continuent à appuyer le pays à travers l'ensemble du pays. Mais ce que le gouvernement a déjà propositionné en termes d'urgence, ça couvrira 3 mois. Mais la commande a été lancée pour prendre les relais parce que ce sont des tests.
Alors, est-ce que vous pouvez faire l'état des lieux à ce jour des différents centres de transfusion sanguine à travers le pays? Dans quel état se trouvent certains parmi eux?
Effectivement, au niveau du pays, nous avons au-delà du Centre national de transfusion sanguine lui-même qui est basé à Kinshasa, nous avons 11 centres provinciaux de transfusion sanguine qui sont piloté par, en termes de ressources humaines, par les spécialistes, l'un en matière d'immunohématotransfusion et les autres en santé publique, qui, du point de vue managérial, ce sont des hauts cadres du pays qui s'affirment. Ils ont également l'équipement nécessaire qu'il faudra, mais tous ces centres sont en grande partie approvisionnés en intrants nécessaires à partir de Kinshasa. Et vous pouvez comprendre que dès lors qu'à Kinshasa, il y a des petits problèmes liés au processus d'acquisition, il peut y avoir des répercussions au niveau des provinces. Mais cela compte.
Alors, au niveau des provinces, c'est posé réellement le problème de la chaîne de froid. À un certain moment, là, c'est le CNTS s'était réellement lancé dans un vaste projet de pouvoir installer au fait les différents centres provinciaux de proximité qui sont de permettre à la population d'atteindre facilement les différentes banques de sang. Qu'en est-il aujourd'hui?
Effectivement, au niveau des centres provinciaux, tous les centres ont des chaînes de croix standards et normés. Mais les autres structures transfusionnelles, notamment les autres structures de référence, sont dans un programme de dotation en équipement normé. Et je peux vous dire qu'au stade actuel, nous voulions que d'ici fin 2018, qu'au moins 2580 centres de transfusion sanguine soient dotés en équipement normé de base. Ici, c'est le frigo, banque de sang, ainsi que toutes les annexes liées à cette équipe-là. Actuellement, nous avons environ 782 structures transfusionnelles qui sont déjà dotées en équipement de base. Et d'ici juin de cette année, nous allons passer de 682 à autour de 900 structures transfusionnelles qui seront dotées d'équipements de base, et cela grâce au financement et du gouvernement et du Fonds mondial par rapport au financement qui était appelé par la GV. Et donc on peut dire que nous allons couvrir d'ici fin 2016 autour de 45% des besoins du pays en termes de structures transfusionnelles qui sont dans les réseaux du pays.
Alors, docteur Pacifique, on sait que la RDC utilise chaque année environ, en fait, près de 400 000 unités de sang, voire même plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment à faire face à la demande?
Bon, nous savons que, par rapport à la participation liée à la population, le pays devra prépositionner et qualifier environ 500 000 poches de sang. Et les données de l'année passée nous ont montré que nous sommes arrivés à au-delà des 500 000 en termes de dons collectés. Et sur les 570 000 transfusions sanguines et dons qui ont été rapportés, près de 470 000 d'entre eux ont été testés conformément aux normes. Il reste encore environ 17% des produits sanguins qui n'ont pas été collectés. et qui n'ont pas été testés conformément.
Alors, ces déficits sont-ils liés au manque de sensibilisation? Ça, c'est la question que je pose directement à Jean-Marie. Jean-Marie, vous êtes responsable de communication au niveau des synthèses aujourd'hui. On sent qu'il y a quand même un déficit hein, du côté de l'unité sanguine par rapport aux besoins, par rapport à la demande. Est-ce qu'on peut lier ça directement au manque de sensibilisation?
Oui, parce que lorsqu'on parle du receveur ou du demandeur du sang, il faut d'abord qu'il y ait un donneur bénévole de sang. Et si on n'a pas travaillé sur les dons, sur les donneurs, on n'a pas mobilisé la communauté. Évidemment, toutes ces machines, toutes ces formes logistiques n'auront pas de sens. Dans les statistiques qui ont été données par le coordinateur technique, il y a seulement 205 131 dons qui sont venus donner bénévoles de sang. Alors, vous savez que dans les dons, nous avons les dons bénévoles, nous avons les dons familiaux et les dons payants. Il faut dire qu'il y a eu quand même un petit progrès parce que maintenant là, les dons payants qui sont les dons périphériques que nous combattons n'ont été donnés qu'à 27,69 payants, dont 4,1%. Il y a un progrès dans la qualité. Mais il continue à avoir un problème dans la satisfaction des besoins. Parce qu'on le dit même à l'économie politique, les besoins sont limités à nombre. Et donc, ce qui signifie qu'il faut de plus en plus de l'action, parce que vous savez, nos populations sont très mouvantes. Regardez la capitale, avec tout ce qui se passe à l'intérieur, à cause des migrations, tout le monde se concentre dans la capitale. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait l'année passée, nous devons encore maximiser plus parce que les populations se sont augmentées. Il y a beaucoup de mouvements entre provinces, mouvements aux frontières. L'activité de mobilisation ne veut pas s'arrêter. Et à ce qui me concerne, le travail a été réalisé, mais il demande encore d'autres accentués par trois facteurs. D'abord, il faut consolider la fédération de la bénévole de sang. Et pas seulement qui fait ça, mais au niveau de toutes les provinces. Maintenant que nous avons multiplié les provinces, eh bien, nous devons être sûrs que dans chaque partie du pays, dans les provinces, nous avons une cellule de la fédération de la bénévole de sang. C'est quoi la fédération? C'est donc cette organisation qui réunit les associations de la bénévole de sang qui travaillent au niveau de la communauté. Parce que le don de sang étant communautaire, nous avons au niveau du ministère de la Santé une structure sanitaire de la communauté qui part donc de CODEV, dans les communautés de développement des bases, le CAC, le service communautaire, les relais qui travaillent au niveau des zones de santé, nous en avons 515. Et cette congestion entre la communauté et les structures de santé peut créer une émulation, une motivation. Et le don bénévole du sang étant une activité du ministère de la Santé, nous avons des associations, des pérécuteurs qui travaillent dans le même axe. C'est à ce niveau que les problèmes qui se posent à la base, notamment les différents problèmes socioculturels qui dépendent de plus de coutumes mosaïques tribales qu'il y a dans le pays, devront subir de notre part une action qui doit faire une bascule. On doit faire basculer les coutumes et faire introduire les nouvelles notions de communication de bénévoles de sang, parce que le sang ne provient pas de l'animal, il provient d'un homme qui doit être motivé, qui doit être expliqué, qui doit être renseigné par des sensibilisateurs qu'on doit compter dans tout ce monde-là.
Voilà, donc il y a bien évidemment des dons, il y a également l'appui des partenaires, mais il faut aller au-delà parce que vous l'avez bien expliqué, les dons proviennent en fait des donneurs bénévoles, et les dons proviennent des donneurs bénévoles et aussi des dons familiales et également des dons payants. Voilà, donc les trois catégories, et c'est ce qui demande en fait la participation des uns et des autres. Donc aujourd'hui, si nous connaissons le déficit, c'est parce que les donneurs bénévoles ne contribuent qu'à 35%, donc les autres, ce sont d'autres catégories. 081-890-63-15 pour votre intervention dans cette émission.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Nous recevons le premier auditeur qui est en ligne, Maître Adrien est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo. Bonjour à nos deux invités.
Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage par rapport à ce que vous observez sur place, autour de centres provinciaux de transfusion sanguine? Dans quel état se trouve-t-il? Est-ce que le besoin en sang est résolu facilement ou il y a encore des difficultés?
Oui, merci, Gilles, de la parole que vous m'accordez. Je vous assure que les centres provinciaux se trouvent dans un état vraiment piteux, hein, un délaissement total, et c'est ce qui fait à ce que la plupart des donneurs bénévoles...
Oui, quand vous dites dans un état piteux, est-ce que vous avez été sous place? Si vous voulez nous décrire exactement comment se représente ce centre, au niveau du Canada, par exemple.
Exactement, moi-même qui vous parle, j'étais victime parce que au mois de novembre dernier, j'avais un malade. Malheureusement, il s'est fait que c'était un cas de transfert. Nous étions dans un centre privé, on nous a envoyé à l'hôpital général. Nous nous sommes rendus là-bas, il y avait un problème de sang qui s'est posé. Arrivé là-bas, le centre provincial de l'hôpital général était en difficulté parce qu'il n'y avait pas l'énergie. D'où il faut maintenant recourir aux donneurs bénévoles. Malheureusement, c'était la nuit, c'était compliqué. Et moi, je me suis pointé. Et heureusement, c'était le même groupe. On a pris le sang. Et c'est là où je n'ai pas compris hier, et c'est ce qui est aussi à la base du découragement des donneurs bénévoles, c'est cette tarification-là. Nos invités venaient de faire, venaient de donner le tas d'intervention, parce que je ne cesse de dire que c'est l'un des domaines dans lequel il y a beaucoup de partenaires qui interviennent. Lorsque je donne mon sang, on me pose comme condition pour donner à cette patiente, il faut donner 20 000 francs. Et moi, j'étais un peu troublé. Je me suis dit, mais ce n'était pas quand même votre sang que vous aviez pris dans la banque, mais c'est mon propre sang. Comment je peux donner encore ces 20 000 francs? Ils m'ont dit, non, écoutez, la conservation, donc les histoires que nous mettons chez ça, là, parce qu'on ne les prend pas directement et puis nous les transférons dans votre patiente, mais nous mettons ça quelque part. Et c'est ce qui explique cet argent-là. Et puis les gens qui étaient autour de nous, curieusement, il y avait les donneurs de ça qui se sont dit, mais ce n'est pas quand même compliqué. Il y a les partenaires qui interviennent dans ces domaines, qui donnent tout, et est-ce que si nos partenaires apprenaient qu'il y a une situation quelconque qui se passe à l'hôpital général, s'il vous plaît, est-ce que ça sera normal? La difficulté que nous avions rencontrée dans nos centres ici, par exemple à Kananga, c'est ce manque-là d'énergie. Parce qu'il y a des fois, lorsque vous arrivez avec quelqu'un, il y a du sang, mais il n'y a pas l'énergie, on nous dit, il n'y a pas moyen que nous puissions prendre ça parce que nous ne savons pas dans quel état ça se trouve. Et c'est comme ça que je suis en train de saisir l'opportunité pour poser la question
oui,
à nos
invités. Oui, mais ça bien, mais vous avez quand même pu observer que par rapport aux années passées, il y a quand même une évolution. Hein, il y a des avancées quand même très significatives quant à la qualité aujourd'hui des unités de sang qui sont
présentées. Moi, j'ai noté qu'il y a un recul par rapport à ce que j'avais connu, par exemple, en 2011 et en 2012. Lorsque j'ai vu ça en 2015, moi-même, je me suis dit, mais au lieu de progresser.
Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Théa. En 2011-2012, on était déjà dans le début de la réhabilitation de ces systèmes. Je crois que s'il y a eu des résultats positifs, c'est pourquoi nous soumettons au débat cette thématique, parce que 5 ans après, nous devons quand même évaluer l'action qui a été menée conjointement par les partenaires et les gouvernements congolais, quant à ceux, aujourd'hui, pour que finalement on puisse se rendre compte si réellement il y a eu des avancées ou non. Merci beaucoup, M. Adrien. Joseph, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, merci de pouvoir m'accorder la parole et je suis ravi d'écouter encore les deux invités qui sont pieds dans leur matière. Et ce qui se passe à Bukavu, je pense qu'il y a encore un grand problème, c'est que bon nombre de gens meurent et dans des différents hôpitaux, puisqu'il n'y a pas de sang. En même temps, les gens n'ont pas la culture de pouvoir donner le sang pour aider les autres qui en ont besoin. Alors, ce que je voulais demander avant de poser ma question aux deux invités.
Oui, Joseph, vous avez parlé, mais est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez clairement nous dire comment ça se passe là-bas, Bukavu, quand vous allez, par exemple, quand les demandeurs de sang fait cette demande donc auprès des hôpitaux ou encore des banques de sang, est-ce que ça se fait facilement?
Bon, je pense que ce qui se passe à Bukavu, il y a les bénévolants, il y a ceux-là qui donnent gratuitement. Je suis parmi ces gens. La nuit est passée, j'étais à l'hôpital général, et bon, on arrive, on donne les ça gratuitement. Et donc, on demande l'avis de qui chacun, et vous donnez ça pour aider les autres.
Alors, quand vous vous donnez les sang, les jours où vous en avez besoin, oui. Est-ce que ça se fait aussi en toute générosité? On vous rend quand même la monnaie ou on vous rend peut-être l'ascenseur?
Non, on donne ça gratuitement. Donc, il y a la générosité. Moi, on ne m'avait pas donné de l'argent. À moins qu'il y ait d'autres qui demandent de l'argent. Je crois que ce n'est pas fini.
Oui. Alors là, ça c'est pratiquement les auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Ils disent, quand le traitement même des donneurs bénévoles pose problème, c'est ce qui décourage. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a, le nombre même des donneurs bénévoles est en décrescendo. Donc, vraiment, c'est non pas croissant, c'est décroissant dans la mesure où ces bénévoles, le bénévolat est négligé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Bukavu. Charles, vous travaillez dans une banque de sang à Kinshasa. Vous êtes avec nous, Charles? Charles, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis avec vous, je suis en ligne.
Vous avez dit, quand vous avez appelé, que vous travaillez dans une banque de sang.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui l'état des lieux de là où vous travaillez?
Merci, JR, pour la parole. Je tiens aussi à saluer les invités qui sont sur le plateau. En ce qui concerne l'état des lieux, vraiment nous avons un problème très sérieux aujourd'hui où je vous parle. Nous manquons le sang parce que les gens ne veulent pas venir donner le sang. Un problème très sérieux.
Oui, vous parlez de gens qui refusent, bon, en fait, qui ne sont pas motivés pour aller donner le sang. Vous parlez des donneurs bénévoles ou vous parlez des donneurs familiales?
Oui, bon, dans notre structure, c'est comme on dit les invités. Auparavant, on avait trois types de donneurs. Il y avait des donneurs bénévoles, des donneurs familiaux, ainsi que des donneurs payants. Mais nous avons écarté un type de donneurs, des donneurs payants, c'est suite à la qualité de leur sang. Mais nous sommes restés avec deux catégories seulement, les donneurs bénévoles et les donneurs familiaux. Mais en ce qui concerne les donneurs bénévoles, vraiment, les gens ne sont pas nombreux. Les gens ne manifestent pas la volonté de vous donner le sang. Et nous avons maintenant des casse-têtes en ce qui concerne les donneurs familiaux. Les gens de la famille n'arrivent pas facilement à comprendre que lorsqu'on donne une unité de sang à un membre de famille qui était malade, il faudra que d'autres personnes reviennent pour restituer ce sang-là. On a toujours des problèmes, les gens interprètent ça très mal, et c'est ce qui fait que nous avons du mal vraiment pour fonctionner pendant que le besoin se fait vraiment sentir.
Alors, il y a peut-être que vous pouvez nous donner un témoignage parce que selon vos informations, les hôpitaux, parfois, bon, en fait, les hôpitaux qui possèdent ces différentes banques de sang se plaignent de ne pouvoir pas recevoir auprès du CNTS, le Centre national des transfusions sanguines, des unités du sang selon leurs besoins. Soit on leur livre la moitié des commandes, ou soit, on ne leur donne rien, et cela entraîne, disons souvent, la rupture des sortes dans les hôpitaux.
Oui, monsieur Gilles, ce que nous devons comprendre, il n'y a aucune usine au monde qui produit le sang. Donc, pour trouver le sang dans un banque de sang, il faut qu'il y ait les donneurs. C'est ce que nous ne comprenons pas les Congolais en général, et surtout nous ici, les Tidouans en particulier. Les gens croient que quand vous allez à la banque de sang, vous allez trouver le sang facilement. Mais or, pour trouver le sang, il faut qu'il y ait les gens qui viennent donner régulièrement. Donc, ça dit qu'après 3 mois, les gens passent pour donner le sang. Et à ce moment-là, on n'aura pas les problèmes que nous avons connus aujourd'hui. Mais en ce qui concerne, si vous parlez en termes de partenariat, ou bien les gens qui nous soutiennent, nous sommes une structure privée. Donc, nous travaillons sur nos propres moyens pour sauver des vies humaines. Voilà, M. Gilles, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, je voudrais également aussi proposer, une fois pour toutes, nous voulons demander seulement aux gens de manifester la bonne volonté. Et pouvoir passer à la banque des sangs, donner les sangs, alors sauver des vies. Alors, c'est déjà qu'on n'a pas l'argent, mais les sangs que vous avez peut sauver beaucoup de vies humaines, et Dieu vous sera vraiment reconnaissant.
Merci beaucoup, Charles. Mais si ce n'est pas un secret, vous nous dites, vous nous avez appelé, et à partir de quelle banque des sangs, vous avez dit que vous êtes à Kinshasa.
Oui, je suis à Kinshasa.
Quel banque de sang?
Je dois citer le nom de l'institution.
Oui, c'est quel hôpital? Parce que nous parlons aujourd'hui de rupture de stock, de rupture de sang au niveau des hôpitaux, des références. Est-ce que vous êtes dans un centre privé?
Oui, je suis dans une clinique privée.
Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les CNTS, les centres
de santé? Exactement, nous travaillons en collaboration avec les CNTS.
Et on vous livre régulièrement, on vous alimente avec les sangs régulièrement, les quantités voulues, les commandes voulues.
Non, nous n'allons pas nous plus approvisionner au niveau des CNTS. Nous avons la capacité de réaliser les tests ici chez nous-mêmes. Donc, quand les données arrivent, nous prélevons et puis nous faisons les tests parce que nous avons la chaîne et l'IA. Nous avons tous les matériels qu'on pose pour réaliser les tests.
Mais c'est le contrôle des synthèses, j'imagine.
Effectivement, oui. Lorsque nous travaillons, nous sommes sécurisés par la
synthèse. Merci beaucoup, Charles, de ce témoignage. Nous allons prendre Victor qui est en bas dans Gongo. Victor nous a rejoint. Bonjour, Victor.
Oui, bonjour, merci pour la parole. En fait, moi je voudrais parler des agglomérations ou bien des villages. En fait, je ne suis pas à Mandaon, je suis à 50 km de Mandaon. Donc je suis dans un village et à côté il y a deux centres hospitaliers. Mais nous, quand vous parlez de banque de sang, on ne sait pas c'est quoi ça, une banque de sang. C'est ça. Donc nous avons des problèmes. Quand on parle souvent, vous parlez de ville. Vous oubliez que le Congo, c'est un grand monde rural aussi. Alors moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que une agglomération ou bien la population puisse avoir une banque de sang? Je sais que c'est déjà très difficile à gérer à Kinshasa ou dans des agglomérations. Il faudrait sensibiliser la population pour qu'elle puisse donner. Mais nous, nous sommes oubliés dans le milieu rural. Nous sommes vraiment oubliés. Il faut quel nombre d'habitants dans un milieu pour avoir une banque de sang. Voilà ma question.
Voilà. Alors, Victor, vous êtes en Badamungu, vous avez dit c'est un problème d'agglomération. Deux centres hospitaliers à 50 km de Badamungu. Il n'y a pas de banque de sang. C'est inconnu dans les langages de la population là-bas sur place. Alors là, c'est comme si vous relancez encore le débat sur la question de savoir où en est-on avec ce projet réhabilitation, construction des différentes installations des centres à travers le pays. Est-ce que on a quel était le critère de choix pour installer tel endroit ou à tel autre? Voilà, donc c'est pire que ça. Merci beaucoup, Victor, d'avoir appelé Diamanda Ngungu. Daniel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les amis ici à la Radio Kati en ce moment. Bonjour à nos deux invités. Et je suis aussi de l'occasion pour souhaiter le meilleur de bonne année 2016, comme c'est la première fois que je suis en train.
Merci beaucoup, Daniel. À vous, autant.
Merci. Pierre. Je dirais ceci, la radio Kati est effectivement une radio du peuple, en témoigne ce sujet du jour. Hier ici à Lubumbashi, c'est un problème qui prise de la catastrophe. Le sang, c'est un sérieux problème, c'est un véritable problème. Et c'est vrai qu'il vient tout juste de me précéder à me parler en termes de ces campagnes, de villages. Mais moi je suis ici à Lubumbashi, c'est en pleine ville de Lubumbashi. Mais ce que nous constatons, que les besoins en termes de sang sont énormes. Et le mois de janvier, pendant lequel nous sommes en train de passer cette émission, c'est que le paludisme n'est pas complet en Lubumbashi. Et ce paludisme fait que les enfants ont des problèmes d'anémie terrible qui nécessitent des transfusions en tout moment. Mm-hmm. Maintenant, comment les structures sont organisées? Vous voyez que les choses ne tournent pas bien parce que selon le système de santé, il y a le niveau primaire, il y a le niveau secondaire, le niveau tertiaire. Le niveau primaire est constitué des centres de santé. Le niveau secondaire, c'est ce qu'on appelle les HCR, les hôpitaux de référence. Et le niveau tertiaire, ce sont des grands centres comme l'hôpital CMB ou le clinique universitaire. Mais maintenant, les petites structures de niveau primaire qui doivent référer les cas de transfusion, par exemple, à des structures secondaires qui doivent avoir des centres de sang, et ces structures-là n'en ont pas. Quand vous allez dans les HCR, même ceux-là qui sont dotés de matériel pour avoir des banques de sang, ils n'ont pas de sang. Pas même des structures secondaires, mais des situations de secours. Vous voyez une maman qui arrive à l'hôpital, riche du type secondaire, qui est censé avoir une banque de sang, et bien il n'y a pas de sang. Et la personne peut être en
contact
aussi de la population. Il faut de la sensibilisation vraiment accrue. Dites-le, vous m'avez dit que ce n'était pas hier. Ce n'est que la journée mondiale de la transfusion pour besoin des caméras. Et vous allez voir une dizaine de gens là, on montre autant de
célébration avec pompe. Et après, sinon, ça dure.
Juste ces jours-là, je pense qu'on met des caméras. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est autre chose. Il y a aussi les phénomènes carburants. C'est un bon bâti. Les phénomènes carburants, c'est quoi? C'est que ce sont des individus qui vont solliciter à vendre leur temps. Et ils les vendent à n'importe quel prix. Et tout cela, la population est démunie. Et le pénis à son propre c'est vraiment un sujet.
Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel. À vous la parole, chers auditeurs, si vous nous rejoignez. Donc, bienvenue dans Parole aux auditeurs et composez les 081 800 90 63 15 pour votre intervention directe.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et aux audiovisuels. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons cette émission Parole aux auditeurs avec nos deux invités qui sont dans ce studio, Jean-Marie et également Dr Pacifique, qui est le coordonnateur technique au CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine, et Jean-Marie qui est le responsable de la communication. Alors, je reviens à vous, Dr Pacifique, vous êtes le coordonnateur technique, après avoir suivi les préoccupations des uns et des autres, et il y a également en fait des appréhensions qui se sont dégagées, entre autres sur les traitements des donneurs bénévoles. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a un déficit du côté des donneurs bénévoles. Il y a beaucoup de points qui découragent en fait ces donneurs, notamment leur traitement et aussi la manière dont on gère leur cas quand ils se trouvent aussi eux-mêmes dans leurs besoins ou soit les besoins de leurs membres des familles. Il y a également cette proximité que les CNTS n'a pas pu créer au niveau de certaines agglomérations. Il y a le cas à Bagangungu qui a été cité avec des centres où aujourd'hui il y a l'absence totale de banque de sang. On n'en connaît pas et même dans les langages courants, personne ne parle de banque de sang. Comment vous réagissez?
Ok, merci beaucoup de se dire et je remercie en passant tous ceux qui nous ont appelés, qui ont appelé lors de cette émission. Enfin, vous allez vous rendre compte que le problème est à l'échelle nationale parce que Bukavu a appelé, Lubumbashi a appelé, Bandungu a appelé, Canada a appelé. Dans l'ensemble, c'est des questions liées à la mobilisation de la communauté au don de sang. Parce que les besoins en sang sont énormes, mais la communauté donne pas suffisamment de sang. En deuxième lieu, il y a un problème de tarification des produits sanguins parce que souvent on donne son sang gratuitement, mais en contrepartie, lorsqu'on en a besoin, il y a toujours un problème de prix qu'il faut payer. Et à troisième lieu, c'est un problème aussi de couverture de certaines zones de santé en termes de structures à même de pouvoir qualifier des produits sanguins. Par rapport à la première préoccupation en ce qui concerne la promotion des dons bénévoles de sang, il faut se dire que c'est toute une culture. Nous ne sommes qu'à 38% des dons provenant de dons bénévoles de sang et toute action, toute intervention en lien avec le changement de comportement demande un peu de temps pour que les gens changent d'habitude. Mais là, il faut opposer certaines us et coutumes qui font que les dons de sang trouvent certains obstacles. Mais quand là, les tiennent. Si nous regardons nos statistiques, nous venons de 17% seulement des dons bénévoles de sang en 2009, et aujourd'hui nous sommes à 38%. Le progrès, certes, il est là, mais il est encore faible. Alors, par rapport à la tarification, ça c'est toute une politique générale qu'il faut implémenter, aussi bien au niveau du système de santé qu'au niveau de chaque hôpital général de référence, voire même au niveau de chaque province, parce qu'il y a des comités de pilotage provinciaux qui sont notamment en charge de définir des politiques et d'adapter certaines décision au niveau de chacune des provinces. Alors, nous, au niveau du centre national de transfusion sanguine, tout ce que nous recevons de nos partenaires, qu'il s'agisse de partenaires du gouvernement, qu'il s'agisse de partenaires internationaux ou étrangers, tout ce que nous recevons, en tout cas au niveau du centre national de transfusion sanguine, tout est servi gratuitement en termes de tests, de réactifs et de consommables, aussi bien aux structures privées qu'aux structures étatiques. et vous pouvez vérifier sur le terrain. Donc, vous pouvez
la défaillance au niveau de l'alimentation ou l'approvisionnement des différentes banques de sang, des hôpitaux, des références parfois, parce que comme certains l'ont dit, les hôpitaux se plaignent de ne souvent pas recevoir auprès de Feltes des unités du sang selon leurs besoins, ou soit on leur donne la moitié des commandes simplement, ou même rien d'ailleurs.
Tout à fait, c'est bien, parce que nous avons aussi nos capacités d'évaluation des besoins par rapport à chacune de ces structures. Parce qu'il y a d'autres structures, il faut qu'on se les dise, qui, au-delà du fait que la santé devrait être une intervention à la limite communautaire, à la limite bénévole, d'autres structures commencent à faire des transfusions commerciales. Il faut qu'on se dise, et nous sommes en train de descendre sur le terrain pour vérifier si effectivement les transfusions indiquées l'ont été pertinentes. Et donc, il y a des structures transfusionnelles qui font des demandes à la limite excessive, et nous sommes obligés, compte tenu des rapports de leur mois passé, et dire effectivement la structure a besoin de plus de quantité.
Parce que c'est sûr, nous ne voulons pas la face, parce qu'aujourd'hui, il y a des infirmiers qui se promènent avec des poches de sang, des unités de sang privées, et quand la demande s'est fait sentir au niveau de l'hôpital, bon, ils peuvent en trouver facilement. Alors nous disons, ce qui relève quand même de la vie de personnes, voilà, on va manipuler les poches de sang sans vérifier, même sous la qualité, on peut donner à quelqu'un sans infecter.
C'est pourquoi toutes les fois qu'une structure veut commencer à réaliser les transfusions sanguines, nous demandons toujours un avis administratif au niveau du médecin sur les zones de santé qui, lorsqu'il donne un quitus sur le fait qu'elle se trouve peut transfuser, nos experts de sang pour les transfusions sanguines à Kinshasa, comme nos experts des centres professeurs, descendent sur le terrain pour faire un état des lieux technique et se rassurer que cette structure peut être acceptée à pouvoir poser ce.
Alors, on a parlé, je crois que les auditeurs beaucoup sont revenus sur. On mentionnait cet aspect des choses, le déficit de la mobilisation, de la sensibilisation, mais on sait tout de même qu'aujourd'hui, ce qui décourage, j'ai parlé tout à l'heure des traitements, les bénévoles, dans le temps, on a donné un peu de sardines, un peu de nez, mais on ne sent plus ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les synthèses manquent de moyens pour prendre en charge ces donneurs bénévoles?
C'est-à-dire, pour nous, les donneurs bénévoles, ce sont des donneurs à l'honneur. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons toute une politique de prise en charge des donneurs bénévoles. Parce qu'eux-mêmes, lorsqu'ils sont dans les besoins en sang et que le sang est disponible, nous n'hésitons pas à leur donner une unité de sang. Pour lui-même, pour son appartement, ou pour son appart. Et de manière gratuite.
Voilà, je crois qu'il y a des donneurs qui nous suivent. Il y a Maître Adrien qui est sur la ligne, c'est là, qui a donné un autre témoignage. Il y a tant d'autres, peut-être, ils sont éparpillés à travers le pays, qui nous écoutent en ce moment. Ils peuvent appeler pour nous dire exactement ce que dit le docteur Pacifique, si cela est vrai, parce que bon, nous avons reçu beaucoup de messages des gens qui sont des bénévoles, des donneurs bénévoles, qui se plaignent, qui disent voilà, quand nous nous retrouvons nous-mêmes dans cette situation, c'est vraiment compliqué, c'est difficile de trouver facilement le sang et même à des conditions les plus souples.
D'idée, mais c'est sûr, aujourd'hui, nous pouvons vous affirmer qu'au niveau de l'une de nos structures professionnelles, à savoir en Équateur, nous avons construit une clinique des donneurs. Construire une clinique à même de pouvoir prendre charge les donneurs lui-même et ses professeurs.
Vous ne pouvez pas vous couper, on va prendre quelqu'un qui nous a rejoint rapidement. Il est gestionnaire d'un hôpital à Kamina, Monsieur Mandé. Monsieur Mandé, vous êtes avec nous? Monsieur Mandé.
Merci beaucoup.
Merci de nous rejoindre parce que vous êtes responsable, gestionnaire d'un hôpital. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui pour faire face à ces besoins récents en transfusion dans votre hôpital?
Bien sûr, je suis administrateur gestionnaire des hôpitaux dans la division sanitaire du Yoromani à Kamina. Nous qui sommes en dehors de la ville de Kamina, nous connaissons beaucoup de difficultés à tel point qu'il n'existe même pas le centre de transfusion. Les banques de sang n'existent pas dans nos hôpitaux.
Donc les synthèses, les synthèses, allez-y.
La maladie à transfusion, c'est fait moyennant une somme d'argent. Il n'y a pas la gratuité. Sauf que si c'est la famille, l'un des membres de famille qui doit supporter la charge, là il n'y a pas de problème. Mais si la famille manque un donneur, cette famille doit nécessairement acheter du sang. Et le coût est forfaitaire. Donc, quelqu'un qui donne son sang peut donner à n'importe quel prix. Lorsque la famille se voit dans le grand besoin comme ça, elle donne tout l'argent. Donc,
des amis en profite pour.
Ça se trouve seulement dans le grand hôpital, l'hôpital du Nord de référence, dans la province même. Mais en dehors de la province, ça n'existe pas. C'est théorique. Cela, donc, c'est tout une surprise. Mais le temps se vend. Le temps n'est pas bien sûr. Cette notion n'existe même pas dans des milliers d'euros.
Alors, donc on peut vous dire, vous regrettez que ce projet d'installation des différents centres nationaux de transfusion sanguine à travers le pays, c'est comme si chez vous, en tout cas au Katanga, plus précisément à Kamina, il n'a pas marché à plein régime.
Dans tous les milieux, en dehors de Kamina, au centre ici, la banque de sang existe. Mais cette banque ne fonctionne pas normalement. Mais dans les milieux, en dehors de Kamina, ça n'existe pas. Pas faisant à n'importe quel prix. Cette notion de gratuité n'existe même pas.
Merci beaucoup, Mandé, d'avoir participé à ce débat et évidemment d'avoir contribué à cette émission. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour, Gilles.
Merci d'être venu dans cette émission. Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Je vais parler comme un ancien donneur bénévole de sang. J'ai 64 ans aujourd'hui. Je me sens fatigué de donner. J'avais commencé cette activité bénévole. J'avais, je crois, 16-17 ans. J'étais à l'atelier de Lingwala ou Saint-Jean. J'avais suivi mon père parce qu'il fut aussi donneur bénévole de sang. Et d'ailleurs, il avait entraîné ses frères, dont un qui sera mis en terre aujourd'hui, que nous pleurons, Jules Tadé Malo Diakolo Sekou, qui fut inspecteur général des finances, deux fois parlementaire national et vice-premier ministre dans ce pays. Il donnait aussi le sang quand il fut étudiant à l'ENDA. Alors, à cette époque-là, j'avais 16-17 ans, je crois, je faisais l'haltérophilie, j'étais très corpulent. J'ai donné ma première unité de sang à l'hôpital de Ndjilikastefet lorsque ce docteur Kinsondo était médecin directeur là-bas. On avait besoin de quelqu'un et moi j'ai passé. J'ai dit à mon ami Ngamba Alphonse de Ndjilikastefet Kimwenza que je vais donner. Et voilà, tout était parti de là. Alors, quand je suis devenu étudiant, j'ai rencontré un monsieur, docteur. Mouteba Mouchid, qui était présent à la Croix-Rouge, et je me suis fait secouriste, donneur bénévole de sang, et je suis porteur de la goutte de sang qui sauve. Voilà. Alors, le numéro de ma chambre était connu, parce que je suis groupe O négatif, donc registre négatif, et chaque fois qu'il y avait des urgences au pays universitaire, surtout en pédiatrie, et à la maternité.
Alors, aujourd'hui, vous êtes découragé. Vous êtes découragé, pour quelle raison?
Je ne suis pas découragé, je me suis dit, les jeunes que j'ai entraînés puissent me remplacer. La fatigue liée à l'âge est d'or.
Tout à fait, le poids de l'âge. Donc vous...
Et je ne voulais pas aussi être égoïste, pour que je sois devant la chaîne
merci
moi-même.
Merci beaucoup, docteur Richard. Voilà. Voilà. Vous profitez tellement parce que vous avez... Oui, allez-y rapidement parce qu'il y a...
Oui,
il y a pris
nous,
une question.
Nous voulons que l'État, comme il est en train d'afficher les papiers partout pour...
Le dialogue,
etc. Puisse aussi mobiliser la population parce que regardez le drapeau national. Le drapeau national a deux couleurs de sang qui entourent l'or de ce pays. J'avais appris ça comme ça à l'école primaire, à l'école métropolitaine de l'Unité. Nous sommes secoués par des couleurs de sang partout. On devait amener le don de sang au niveau de la nouvelle citoyenneté. C'est-à-dire, lorsque un jeune homme ou une jeune fille a 18 ans, il doit être donneur bénévole de sang, secouriste, et pourquoi pas brancardier en même temps. Parce que nous sommes un pays qui a coulé le sang jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup, docteur Richard.
Merci.
Merci de votre contribution, et parce que vous avez parlé de Papa Malou, qui est d'ailleurs le papa de notre consoeur Milolo, journaliste à RTLC2. Voilà, donc mes condoléances et nos condoléances à la famille Prouvé. Merci beaucoup. Alors, Freddy, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Freddy.
Bonjour, j'ai arrivé à vous inviter.
Voilà, Freddy, vous avez la parole.
Oui, oui, par rapport à ce que nous venons de dire, c'est ça qui coûte. Je vois beaucoup de représentants ici qui n'ont pas de banque de francs, mais qui transfusent les gens. Alors, moi-même, j'ai vu une maman venir dans un centre de santé avec un enfant anémique, qu'on n'avait pas de sang et il n'y avait même pas un donneur bénévole. L'enfant était vraiment en état très critique, il n'y avait personne pour donner le sang. Alors, un monsieur est venu, dit, moi, je vais donner mon sang, mais je vais aller m'essayer. Il a exigé qu'on lui donne un bouc avec une somme d'argent pour.
Un bouc et. Un bouc et puis de l'argent. Ah bon?
Oui, un bouc. Alors,
ça se passe où, à Kikuit? Ça se passe où, à Kikuit, chez vous?
Pardon?
Ça s'est passé où, concrètement? À Kikuit, ou peut-être dans les cités environnantes?
C'est pas dans Kikuit, pas à Kikuit, mais à un village environnant.
Ouais.
Alors, ils se sont compromis de leur donner. On lui a donné.
On lui a donné, voilà, avant qu'il aille en laissant. Merci. Merci beaucoup, Freddy. Merci beaucoup, Freddy. Alors, comment faire aujourd'hui? Voilà la grande question. Nous revenons sur cette question. Que faut-il faire aujourd'hui pour améliorer les systèmes d'alimentation régulière de banque de sang? Aubert, vous êtes en Bandaka. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut encore renforcer les systèmes de centres provinciaux installés à travers le pays et aussi chercher les partenaires parce que les besoins sont tellement pressants, les besoins sont au-delà de l'offre. Il faut aller plus loin, la demande est forte. Aubin?
Oui, merci, hier. Je salue aussi les invités, je salue aussi les débats. Alors, je voudrais juste discuter de la position par rapport à notre invité qui avait déjà essayé de commencer à parler sur ce qui concerne la banque de fonds. D'accord. Et la banque de sang en Bandaka, c'est bien aménagée, c'est très utile, l'expliquer parce qu'il y a le groupe électrogène, mais il y a aussi le système clair qu'on a installé sur le panneau, juste pour procurer que le sang reste vraiment en bon état, mais reste ce que nous déférons ici, c'est seulement le problème de demeure. De l'air donne le sang pratiquement et. Aller récupérer le sang donc si il y a un cas d'anémie dans la famille, vous allez pour qu'on vous donne le sang là, ça va démarrer le dossier de démarche. Donc si vous passez par ici, avec un prix vraiment trop exagéré. Donc, vous voyez que c'est le gouvernement, ou les gens qui gèrent cette banque-là, à éviter la question, sinon nous, on reçoit nous recevons les sangs gratuitement et pour donner les gens qui manquent les sangs, donc les gens anémiques, il fallait calculer un peu le prix-là, juste le prix qu'ils vont citer et tiendra compte des personnels qui travaillent dans la banque. Mais le prix qui nous donne.
Voilà, merci beaucoup, Aubin. Votre inquiétude, c'est comme.
Par rapport à ça.
Voilà, là, vous avez rejoint également l'inquiétude de certains de vos prédécesseurs qui parlaient de certains coins du pays qui connaissent, au fait, des cas de paludisme, donc d'une manière endémique, du cas de paludisme à caractère, avec tendance, donc, avec de l'anémie. Comment résoudre ce genre de difficultés que nous connaissons dans le pays? Tout peut passer simplement au niveau de la réponse que peut donner les SMTS quand il s'agit d'un besoin qui se présente par rapport à cette question. Alors aujourd'hui, il y a déjà un déficit. 081-890-6340 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retrouvons les cordons chargés de la question technique au niveau des SMTS. Comment vous avez réagi par rapport à aux interventions des uns des autres?
Ok, merci beaucoup, M. Gilles, et je remercie tous les intervenants parce qu'ils montrent un intérêt particulier à cette problématique. Nous m'avons dit que c'est des questions de promotion de données de l'investissement, c'est des questions de comment étendre nos activités sur l'ensemble du pays. Le Congo, c'est un grand pays. il faut aller jusqu'au coin et le recoin du pays. Mais avant d'y aller, il faut d'abord renforcer les bateaux techniques qui existent.
En 2011, on avait l'impression qu'il y avait déjà un programme très bien établi par rapport à, ces, à l'amélioration de ce système.
Oui.
Mais on a l'impression que ça n'a pas marché quelque part.
Tout à fait, monsieur. Le programme est en cours de mise en œuvre. Et nous avons dit que nous avons commencé par des centres provinciaux de transmission sanguine qui sont déjà dans un état de reposter d'excellence au niveau des pays et qui doivent faire en sorte que l'ensemble des provinces respectives soient couvertes en transmission. Maintenant, nous sommes passés à l'étape de couvrir les hôpitaux généraux de référence qui remplissent les normes en matière de transmission sanguine. Au-delà des tests et des réactifs, nous devons former les personnels qui sont en cours de formation, nous devons leur doter des équipements en matière de chaîne de foi et qui est en train d'être fait jusqu'à aujourd'hui. Je vous avais dit, entre autres, que d'ici fin 2016, nous aurons couvert au moins 900 structures nationales formation sanitaire en termes d'équipement et tout le paquet est suivi, notamment la formation et la dotation en même temps. Le petit problème qui se pose aujourd'hui, il faut le dire, c'est qu'avec l'arrêt du financement important qui a été mis en œuvre avec le Fonds mondial, l'État a pris à bras le corps toutes les questions liées aussi bien en matière d'équipement qu'en matière de tests.
Avec le budget,
notamment le budget de l'État, parce que vous vous souvenez que déjà le programme PSS.
3% la part allouée au niveau de la santé.
Mais c'est quand même de fonds énormes en matière de transfusion sanguine. Parce que déjà le programme PSS.
Parce qu'il faut compter plusieurs programmes. Et d'ailleurs, c'est là où d'ailleurs je pouvais aussi lancer une question de curiosité. Aujourd'hui, on ne parle plus du programme national de transfusion sanguine. Là, on a l'impression qu'on parle directement de CNPS. Est-ce que c'est encore bon continuer à fonctionner les programmes?
Ouais.
Est-ce que les programmes fonctionnent?
Il faut ça, il faut se dire que le secteur de la santé est en cours de réforme. Les dénominations peuvent changer, mais en matière de contenu.
Parce que concrètement, toujours le programme, on n'en parle plus, et c'est comme si c'était le synthèse qui est en première ligne, quoi.
Bien sûr, c'est le synthèse, c'est ça, notre transfusion sanguine qui a apprécié. C'est vraiment.
Ou qui assure le programme maintenant de transfusion sanguine.
Absolument, il faut que tu fasses le programme.
Voilà. Alors, parlons de la sensibilisation. Voilà. Et des stratégies aujourd'hui. Synthèse. Dans sa deuxième phase, de pouvoir moderniser, vous avez dit l'étape de centres provinciaux terminée. Maintenant, c'est quelle étape?
Et c'est une stratégie. Tu as compris que le grand problème à 80%, c'est la mobilisation de la communauté de bénévoles. Je vous l'ai dit, chaque démocrate, chaque sociologue sait que la population connaît toutes les dynamiques sociales. Il y a des mouvements sociaux qui sont liés à plusieurs facteurs, et les acteurs de la santé doivent s'adapter à ce genre de mouvement. Quand il n'y a pas d'adaptation, il y aura toujours une écart total. Je suis sûr qu'aujourd'hui, se pose un problème économique simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, il y a une forte demande. Et la forte demande va aussi avec la présence de certaines pathologies. Aujourd'hui, en fait, le paludisme a pris une place considérable, notamment et également, et tous ces problèmes viraux qui généralement termine la vie avec l'anesthésie en produit sanguin, se pose d'un coin à l'autre. Nous avons 515 zones de santé, et le synthèse doit arriver à donner les sangs, à distribuer les sangs à chaque Congolais partout où il se trouve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc agir sur la communauté, parce que le don de sang a un caractère communautaire. Et ici, nous avons tout à l'heure dit que la grande stratégie, c'est d'abord c'est la promotion du don bénévole de sang. Parce qu'il faut donner des sang pour que les gens vivent, pas pour que les gens meurent. Et donc, le don qui est qualitatif.
Mais ça fait plus de 15 ans que ce programme existe. On n'a jamais vu une pancarte, on n'a jamais vu un panneau géant, comme c'est le cas pour aujourd'hui. Avec le dialogue, on voit justement disponibiliser des panneaux. Alors, au niveau de la sensibilisation, les supports publicitaires, vous en avez ou vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez les moyens?
C'est ça le rapport.
C'est nulle part on voit, parce que c'est comme l'a dit un auditeur. Vous n'attendez que le mois de juin. La Journée internationale des dons bénévoles, alors pour sensibiliser la population,
non,
ou peut-être c'est de manière permanente,
il y a une
question de conscientiser la population.
Vous n'avez pas besoin de parler de stratégie.
Tout à fait.
On se dit le pacte est très avancé de la stratégie de l'accessibilité.
Mmh.
Nous sommes en train des plateaux techniques. En toute façon, nous en avons déjà. Il y a un plateau, si vous regardez au niveau d'une ville, l'objectif c'est de se rapprocher de la population locale.
Ce plateau-là fait un rapprochement avec la communauté en termes de livraison de produits sanguins et en termes également de développement de culture aux dons. Parce que c'est l'éducation communautaire, c'est la culture aux dons bénévoles de soins. Évidemment, nous devons le renforcer.
Ça rentre dans le cadre de la nouvelle citoyenneté. Travailler en collaboration avec le ministère de l'éducation.
C'est ça. Nous avons un projet qui est en train d'avancer, c'est la culture en milieu scolaire. D'ailleurs, pour lequel nous avons déjà un projet qui a été traité à l'OMS, le milieu scolaire au cours de cette année 2016-2017. Et demain, nous allons besoin de travailler pour qu'il y ait introduction d'une branche sur les dons bénévoles de soins dans toutes les écoles. Comme ça, chaque enfant qui arrive à 18 ans, il sait qu'il peut faire les dons bénévoles de soins. À part la sortie des écoles, il y a les universités. Le milieu universitaire est un milieu dynamique. À toute façon, nous avons déjà 25 universités qui sont en synergie aux dons bénévoles de soins. Nous voulons, avec effet multiplicateur, dans toutes les provinces, comme aujourd'hui, l'université, c'est un élément de promotion dans chaque province va avoir une université, ça sera aussi pour nous un grand pour que le milieu universitaire continue aux dons bénévoles de soins.
Alors, il y a une audition pour la région, on ne peut pas, de l'appui à septembre, il est temps peut-être de nous dire au revoir. Delphin, vous nous avez rejoint, bonjour Delphin.
Oui, bonjour.
Rapidement, vous avez 45 secondes. 45 secondes, qu'est-ce que vous voulez ajouter, s'il vous plaît?
Bon, ok. Je suis père recruteur. J'ai été formé par le CNTS. Je suis volontaire à la commune de Bumbu. Notre centre est situé au niveau de Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, à un certain moment, on sensibilise les gens qui arrivent et il n'y a pas les collègues. Mais ça fait problème. Une fois, deux fois, directement, ça devient compliqué.
Avec ce qu'on dit,
et on nous dira qu'il y a la cause de la BASU qui devait financer et qui n'a pas financé, il n'y a pas moyen de se procurer des poches. Il y a tantôt mon collègue qui arrive, qui ne fait pas. Il y a tantôt quand
voilà. Je crois que là, ça revient encore sur la mission régalienne du gouvernement.
Voilà,
ouais. Ça relève quand même de la solidarité aussi de la vie humaine. Je crois que c'est dans un programme normal. On ne peut pas attendre que de la Croix-Rouge ou encore d'autres organismes internationaux pour financer. Merci beaucoup, Delphin. Alors, on va terminer en 30 secondes, et puis on termine en conclusion.
Une stratégie de mobilisation des fonds, la mobilisation de tous les organismes pour pouvoir assurer cette stratégie-là, mais également avec la commission interentreprise de consultation, et bien avec les entreprises publiques. Nous pouvons également mobiliser les produits sanguins. Ce qui veut dire ici, il faut
rapidement, parce qu'on a 30 secondes.
Il faut dire une chose que maintenant là que nous sommes en train d'acquérir aussi un équipement, il faut le renforcement des capacités du personnel pour pouvoir.
Il faut des moyens. Voilà.
Mais il faut
que la
population prenne conscience. Sans le NFL patriotique communautaire, il n'y aura pas.
Voilà, docteur Pacifique.
Ok, juste en dépassé que aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement actuel, les pays africains abordent le corps des activités de transfusion. De un, d'ici un mois, nous aurons les intrants pour couvrir au moins 4 mois. De deux, le patron technique de Kinshasa est renforcé en équipement pour voir. S'intéresser à la qualification des besoins et de trois, nous sommes en partenariat avec un cabinet qui passe pour renforcer nos capacités en matière de communication, de sensibilisation et avec les efforts du gouvernement en appui.
Docteur Pacifique, coordinateur technique au CNTS, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Jean-Marie, responsable chargé de la communication dans ce même centre. On se retrouve avec vous très prochainement dans un autre débat. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On va se quitter tout en disant merci à André Mongou pour la mise en œuvre de ce programme. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la production de cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Okapi.